Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On a longtemps voulu y croire, dans le chaos ambiant du monde arabe, et d'abord les Tunisiens eux-mêmes, leur pays serait le seul à réussir sa révolution de printemps, le seul à maintenir un état de droit, le seul à concrétiser pour sa population toutes les promesses de 2011. Mais en 8 ans, les rêves de la révolution se sont écaillés, il reste une société appauvrie, une économie affaiblie, une jeunesse sans espoir et une classe politique décrédibilisée. Dimanche dernier, le scrutin législatif n'a pas dégagé de majorité claire. Le second tour de l'élection présidentielle, qui devrait avoir lieu ce dimanche, s'annonce tumultueux. Nabil Karoui, surnommé le Berlusconi local, libéré de prison in extremis mercredi dernier, fait campagne à bride abattue pour rattraper son retard face au conservateur Kais Saied. La Tunisie reste une démocratie, c'est exceptionnel dans la région, mais les ressorts en sont fragilisés. L'ancien président Ben Ali, mort en exil en Arabie Saoudite il y a près d'un mois, avait été renversé dans la liesse, payant son autoritarisme et la corruption effrénée de sa famille. La corruption est toujours là, elle a changé de main. Pourquoi les revendications sociales et politiques qui se sont alors exprimées avec force ont-elles à ce point été déçues ? Tout à leur jeu d'influence, les clans politiques, toutes tendances confondues, des islamistes aux progressistes, sont aujourd'hui sanctionnés. L'environnement régional ajoute aux inquiétudes. La Libye, devenue le refuge des djihadistes de Daesh et d'Al-Qaïda, est en plein chaos. L'Algérie est en proie à ses propres tourments et la contestation tient bon face à un régime crispé sur ses acquis. Qatar, Turquie, Arabie Saoudite, quelles sont les influences qui s'exercent aujourd'hui sur Tunis? Le tourisme souffre des attentats récents, l'économie s'enfonce dans la crise, comment pourrait-elle repartir? Demain, dimanche, un nouveau président doit être élu et les tractations ont commencé pour former un gouvernement. Quelles sont les promesses? Quels sont les enjeux? C'est ce que nous allons explorer dans cette conversation exceptionnellement enregistrée ce jeudi soir pour des raisons d'agenda. Avec donc Madame Bessis, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne franco-tunisienne. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Eddy Larbi, ancien directeur à la Banque mondiale, aujourd'hui professeur à Sciences Po à Paris. Par téléphone depuis Nantes, Luis Martinez, directeur de recherche au CERI, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Et par téléphone aussi, mais de Tunis, Michael Béchir Ayari. Vous êtes, Michael, analyste principal dans le think tank Crisis Group pour la Tunisie et l'Algérie. Madame Bessis, il y a 7 millions d'électeurs qui doivent se prononcer à nouveau. On a vu que seul un électeur sur deux s'est dérangé pour ce premier tour des élections présidentielles et que la participation aux législatives dimanche dernier était encore moindre. Est-ce que le coup de théâtre de mercredi soir, donc la libération de Nabil Karoui, cet homme d'affaires emprisonné depuis la fin août pour soupçon de fausse fiscale et de blanchiment, c'est quand même un coup de théâtre. Est-ce que ça relance la campagne pour très peu de temps? Est-ce que cela peut fouetter en quelque sorte l'intérêt des électeurs pour ce second tour?
Alors, la libération de Nabil Karoui hier, effectivement, relance la campagne sans aucun doute, puisqu'il va pouvoir faire campagne et se déplacer pendant les quelques jours qui lui restent à l'intérieur du pays et débattre avec l'autre candidat arrivé au second tour, avec le candidat Kais Saied, puisque un débat est prévu demain soir.
Vendredi soir. Comme nous serons diffusés. Nous sommes diffusés le samedi matin, le débat aura eu lieu, d'accord.
Donc, puisqu'un débat a eu lieu entre les deux candidats. Donc, cela relance la campagne. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la participation demain sera plus importante. Il y a un désamour, un désenchantement incontestable des Tunisiens et des Tunisiennes vis-à-vis du processus électoral. Donc 49% de votants au premier tour de la présidentielle, à peine 43% de votants aux législatives. Et le paradoxe de la Tunisie, si vous voulez, c'est que c'est une jeune démocratie qui a à peine 9 ans, Les procédures démocratiques sont parfaitement respectées. La transition à la mort de l'ancien chef de l'État le 25 juillet se sont parfaitement déroulées. Les élections de l'avis de tous les observateurs se sont déroulées dans les conditions démocratiques tout à fait parfaites. Et il y a en même temps une sorte de fatigue de la démocratie. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez dans votre introduction, eh bien, la révolution de 2011 a suscité des attentes extrêmement importantes, extrêmement variées d'ailleurs, sur le plan politique, économique, social, et que ces attentes, le moins qu'on puisse dire, est que sur le plan économique et sur le plan social, elles n'ont pas été satisfaites.
Alors, on a vu, et c'est tout à fait remarquable en soi, qu'il y a eu énormément de travaux pour aboutir à une constitution. Donc, dans cette constitution, est-ce que le gouvernement a un rôle plus déterminant que le président? Quelle est la marge d'action du président, quel qu'il soit, quand il sera élu, donc dimanche?
Alors, la constitution de 2014 instaure un régime parlementaire en Tunisie. Les Tunisiens, les constitutionnalistes et l'ensemble d'ailleurs des Tunisiens étaient repus, si l'on peut dire, de présidentialisme à outrance pendant 60 ans et ont fait pencher le balancier dans le sens totalement inverse à ce présidentialisme qui prévalait depuis l'indépendance. Donc c'est un régime purement parlementaire dans lequel le chef du gouvernement conduit la politique du pays et les prérogatives du chef de l'État, il y a trois prérogatives du chef de l'État, les affaires étrangères, la défense, et le chef de l'État est également le garant de la Constitution. Mmh. Ces prérogatives ne vont pas au-delà. En réalité, dans le régime politique tunisien actuel, le chef du gouvernement est le véritable chef de la politique de la Tunisie.
Et donc, ce qui veut dire que ce qui compte, ce sont les tractations qui ont déjà commencé entre les partis qui sont désormais, il faut rappeler que le scrutin est à la proportionnelle.
Intégrale.
Il y avait plus de 1500 listes, y compris, ai-je lu quelque part, des chômeurs qui se sont inscrits dans le seul espoir de pouvoir toucher l'indemnité parlementaire.
Tout à fait.
Et donc, il n'y a pas de majorité claire. Alors, on a vu que c'est Ennahda, donc le parti des islamistes modérés, selon la formule.
Parti islamiste, oui.
Parti islamiste, qui est arrivé donc en tête, mais qui va devoir composer avec d'autres partis politiques.
Je crois qu'il faut faire un petit rappel, parce qu'effectivement, le parti Ennahda, le parti islamiste, est arrivé en tête, mais si l'on regarde les trois élections qui se sont déroulées depuis la Révolution. Élection d'octobre 2011 à la Constituante. Ennahda est arrivé premier avec plus de 90 députés. Donc, vous voyez la différence. Élection, donc, Ennahda avait gagné sans pour autant avoir la majorité absolue. Élection de 2014, Ennahda a perdu avec 69 députés. Et là, Ennahda gagne avec 52 députés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'électorat de parti Ennahda s'est réduit incontestablement et Ennahda conserve un socle solide, mais fragile. Donc, ce parti va être obligé de composer. Il ne pourra pas gouverner tout seul. La majorité parlementaire sur 217 députés est de 109 députés. Donc, effectivement, comme vous le disiez, les tractations battent leur plein et on va attendre pour savoir si le parti de M. Karoui, Qalb Tounes, rejoue le scénario qu'avait joué M. Kaïd Sepsi en 2014, c'est-à-dire qui avait conduit une campagne électorale anti-Ennahda et qui, au lendemain des élections, s'était allié.
Au nom des principes laïques et du bourguignonnisme.
N'employons pas le terme de laïque en Tunisie, il n'y a pas de laïcité en Tunisie, c'est un état séculier et non laïque. Il y a eu donc une co-gestion du pays après. Tous les scénarios sont possibles aujourd'hui.
Alors, allons à Tunis, vous rejoindre Michael Ayari. Quelle est l'ambiance maintenant que Nabil Karoui a été libéré? Est-ce qu'on sent une espèce de frénésie, ou en tout cas, dans l'opinion, un intérêt accru pour ce second tour des présidentielles?
Bah écoutez, curieusement, pas véritablement, parce que comme l'a dit Sophie Bissis, les tractations battent leur plein. Il y a quelques rumeurs, ici à droite à gauche, sur la possibilité d'une entente au nom de l'unité nationale, au nom du fait que le chemin le plus court et le moins risqué vers la nomination d'un gouvernement serait une entente entre le parti de Nabil Karoui et Ennahda, et que c'est pour cette raison, et que ça serait pour cette raison que Nabil Karoui a été libéré, Ce que je doute, puisqu'il y a quand même une certaine indépendance de la justice, d'autant plus que c'est la Cour de cassation qui l'a libéré. Mais il n'y a pas, disons, de frénésie. Par contre, demain, il va y avoir un débat télévisé, normalement.
Donc vendredi soir, hein, je reviens sur le calendrier.
Voilà. Oui. Voilà, exactement, vendredi soir. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que beaucoup d'observateurs avaient vraiment peur que Nabil Karoui reste emprisonné, y compris les Nations Unies, etc. Puis ça aurait pu poser certaines questions de légitimité, c'est-à-dire qu'il aurait pu, par exemple, refuser de reconnaître sa défaite, ses past state passés, ce qui aurait été quand même un peu embêtant. Là, donc, ça relance un certain espoir, c'est-à-dire l'espoir que il y aura pas vraiment de contestation des résultats.
Donc on comprend que les états-majors politiques sont sur le qui-vive. La population, vous nous le dites, reste relativement indifférente. Est-ce que ça veut dire que tous ces jeux politiques, véritablement, les gens en ont assez? Et ce qui les préoccupe, eux, ils ont le sentiment que la classe politique ne s'en préoccupe pas du tout.
Ben, écoutez, oui, on peut dire ça, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le résultat de ce cycle électoral est un peu le symptôme de quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que il exprime en fait cette insatisfaction, ce ressentiment à l'égard de la classe politique. Donc, les citoyens sont pas totalement démobilisés. C'est faux. C'est pas une apathie politique qu'on a pu le voir ces dernières années. Au contraire, ça a été relancé. Il y a des débats qui repartent. Il y a de l'idéologie qui revient. Alors qu'avant, c'était plus du tout le cas. C'était des questions d'arrangement. Lui s'arrange avec lui. Lui s'arrange avec lui. Une conception très pragmatique et très politicienne, si vous voulez, qui est consubstantive un peu de l'alliance du gouvernement d'union nationale et du consensus. Et là, on sent quand même qu'il y a des enjeux qui reviennent. Il y a des débats très virulents. Il y a une forme de, comment dirais-je, de conflictualité un peu positive qui a levé un peu la chape de plomb du consensus. Le problème, c'est que on risque peut-être d'arriver à la même situation que de 2014, dans le sens où en 2014, il y avait un vote sanction contre la Troïka. Ce qu'on appelait la Troïka, c'était donc Narva, le parti d'inspiration islamiste, avec deux autres alliés dits sécularistes. Et donc les électeurs s'étaient exprimés à ce moment-là, qui correspondait un peu à la clôture du printemps arabe, entre guillemets, etc., et avait voté contre Narda principalement. Et donc il y avait eu beaucoup de tractations pendant un moment, beaucoup de rumeurs, un gouvernement qui avait été fait sans Narda, etc. Et à la fin, il y a eu ce fameux consensus. Et les électeurs de Nidetounes, donc qui était le parti séculariste à ce moment-là opposé à Narda, ont été profondément déçus et ont eu beaucoup de ressentiments. Et là, on sent que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est les électeurs de Narva, du parti d'inspiration islamiste, qui risquent d'être profondément, profondément déçus si le même type d'alliance se reproduit.
Voilà, les uns comme les autres jugeant que c'est une alliance presque contre nature. Et Eddy Larbi, vous êtes économiste, vous avez d'ailleurs brièvement, je crois, participé à l'un des gouvernements de la période dite de transition, où vous étiez chargé de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable. Toutes sortes de priorités qui, hélas, semblent être en jachère aujourd'hui, tant la crise économique et sociale est profonde dans votre pays.
Je pense que dans votre introduction, vous avez très bien résumé, et j'ai bien apprécié le fait d'avoir insisté sur la situation économique et sociale. Et je crois que s'il y a quelque chose qui s'est passé dans la transition démocratique tunisienne, qui à mon avis n'est pas terminée, maintenant on va revenir à un début d'une autre transition, je crois que c'est cette question économique et sociale. Le politique ou les politiques et la classe politique l'ont complètement ignorée, mais ignorée. C'est-à-dire qu'ils sont passés en disant ben, « il va falloir faire un petit peu la constitution, le nouveau régime, etc. » Et après, on va s'occuper de la partie économique et sociale. Sauf que après, on s'est occupé plutôt du repositionnement, des tractations et je dirais un petit peu de cette affaire, effectivement, de tractations et de partage, je dirais, des pouvoirs pour pouvoir accéder aux ressources. Et ça, c'est...
Et pour pouvoir embaucher, parce que j'ai lu des chiffres absolument affolants sur la manière dont la fonction publique en Tunisie, je crois que le nombre de fonctionnaires a été multiplié par deux.
Pas tout à fait, mais
presque. Ouais,
augmenté de 170 000 à peu près.
Oui, à peu près.
Donc ça veut dire quoi? Que ce sont des clientèles qui ont été embauchées par les uns et par les autres?
Absolument. Il faut dire, bon, d'abord, dans une révolution, la demande sociale émerge très vite. Il faut dire que 2011, c'était pas facile. Il y avait énormément de tous bords, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et le pouvoir politique en place à l'époque, c'était Feu Bejikaïdi Sepsi, son équipe.
Donc le président qui est mort l'été dernier.
Voilà, le premier ministre. Exactement. C'était un petit peu calmer le jeu. Et il ne faisait que pratiquement répondre positivement à toutes ces demandes. Sauf que, comme il n'y a pas, je dirais, ils ont négligé tout à fait la partie économique, personne n'était là pour dire attention au coût de ce genre de politique économique. Donc, ils avaient recruté, ils avaient augmenté les salaires deux fois en un an, ils avaient élargi les subventions. Mais surtout en 2012, quand Nahda et la Troïka a été élue, c'est là où, je dirais, les politiques économiques tunisiennes ont été complètement débridées. Parce que le recrutement, le plus grand lot du recrutement, c'était de 2012. 2012, c'était un peu la récompense. Et c'est là où on voit que l'intention politique de ce parti et de pas mal d'autres partis, c'était plus la récompense et plutôt, je dirais, le renim. C'est comment on va profiter
butin,
de la situation.
Le renim en arabe.
Ouais.
Oui, le butin.
Parce que recruter 50 000, et parmi les 50 000, on prend la majorité des gens qui, soi-disant, ont milité avec Nahda, le parti islamiste, c'était quand même fort de café. Et deuxième chose, on a dit, bon, les gens qui ont milité pour ce parti doivent être récompensés parce qu'ils étaient en prison, parce qu'ils étaient réprimés. C'est marrant parce que la gauche tunisienne n'a jamais demandé ça. Il n'a jamais été pris. Mais ce qui est important aussi, c'est que on a considéré qu'il va falloir peut-être relancer et ouvrir un petit peu, je dirais, les caisses de l'État. Et donc, les subventions ont augmenté un peu partout. Sauf que, tout de suite après, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus tellement de ressources et qu'on ne pouvait pas se permettre une politique sociale, alors que la partie, je dirais, production, la partie réforme économique, l'emploi, etc., ont été complètement négligés.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les chiffres du chômage sont terrifiants, et surtout le chômage des jeunes. Les jeunes diplômés, 67% d'entre eux seraient au chômage. Ce qui veut dire qu'il y a un exode. Enfin, les jeunes essayent de partir.
Oui, ces chiffres, bon, il faut le relativiser parce que ça dépend. En fait, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, tous les paramètres macroéconomiques et sociaux sont tous vraiment très, très mauvais. Il n'y en a pas un seul qui peut une croissance pendant les 8 dernières années de 1,6% par an, alors qu'on était avant la révolution à 4,5% par an sur 10 ans. Quand même, on a perdu pratiquement le tiers, les deux tiers de notre capacité de... L'emploi qui était, bon, à 12%, aujourd'hui, on est à 15,5% en temps de chômage. Mais c'est vrai que les jeunes, c'est à peu près dans les 30%, mais les jeunes diplômés du supérieur, c'est au-delà de 40%. Mmh. C'est à peu près dans les 42%. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est extrêmement grave. Mais il n'y a pas que ça. Regardez les finances publiques. Les finances publiques aujourd'hui, ça fait quand même 7 ou 8 ans, on est à 5-6% de déficit. La dette publique qui n'était que 40% du PIB, l'un des meilleurs pays en voie de développement à l'époque, c'est le plus faible. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc, un endettement énorme. Le dinar a perdu plus de 45%. En fait, et si on regarde les réserves, on a à peine 2 mois et demi d'importation.
Donc, importation. C'est-à-dire que c'est une économie qui ne produit presque plus rien et qui importe au maximum, ce qui veut dire que ceux qui gagnent l'argent et qui répandent, qu'il faut bien appeler une corruption assez généralisée, ce sont tous ceux qui font de l'import-export, non de l'import-import.
De l'import-import.
Une bonne partie non formelle en plus. C'est du trafic.
Plus de 50% aujourd'hui.
Voilà. Ouais, dans la zone dite grise.
Absolument. La zone dite est grise et malheureusement, une partie de cette grise est en connexion avec une partie de ceux qui sont au pouvoir. C'est ça ce qui est grave. Et donc, je crois que c'est important de le souligner. Et ceci étant, moi, j'aimerais bien faire une petite remarque sur le plan politique. Il y a la Constitution avec ses pouvoirs,
régime parlementaire, etc. Oui.
Mais il y a la loi électorale, à mon avis, qui a émietté et qui fait en sorte qu'on sera toujours en difficulté. Aucun des partis n'aura un jour la majorité, sauf cas exceptionnel. Et donc, on va être tout le temps...
Oui, ça, non, c'est là. Beaucoup de partis politiques réclament d'ailleurs...
Madame Bessis.
Beaucoup de partis politiques réclament une modification de la loi électorale.
Absolument.
Qui permettrait de parvenir à des majorités relativement stables. Si vous voulez, aujourd'hui, toute proportion gardée, mais la Tunisie est entre l'Italie et Israël en matière de régime parlementaire, enfin d'excès de parlementaire.
La intégrale.
Voilà, la proportionnelle intégrale. Donc,
alors, rejoignons maintenant Luis Martinez. Bonjour, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CERI à Sciences Po. Comment s'explique cette gestion désastreuse dont Eddy Larbi vient de nous donner le détail après Ben Ali? Est-ce que ça veut dire que les aspirations nées de la révolution étaient totalement irréalistes ou que la classe politique a été, il faut bien le dire, d'une incompétence totale?
En fait, moi, il me semble que, au regard de ce que j'entends, il est clair qu'on a sous-estimé, disons, les enjeux après la Révolution. On a basculé très vite dans ce qu'on a appelé finalement une approche très clientéliste. On a remercié les vainqueurs, on a distribué une partie des dividendes à ceux qui avaient soutenu. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté finalement peut-être des sources de la Révolution qui étaient de répondre de façon juste et équitable à des demandes, notamment sociales, de justice sociale, d'inégalité territoriale, de chômage des jeunes massif. Et c'est vrai que ces 8 années... sont un peu l'illustration de l'échec de ces politiques-là. Le désenchantement, il n'est pas seulement économique, social, il est très clairement aussi politique. On ne vote plus ou beaucoup moins, non pas parce qu'on ne veut pas participer au débat, non pas parce qu'on n'a pas d'idées, mais tout simplement parce qu'on ne trouve pas dans les acteurs politiques une prise en compte des revendications qui proviennent du terrain. Et je crois que les chiffres qui ont été donnés tout au long de la discussion sur la dégringolade à la fois d'Anarda, mais moi je dirais des autres partis politiques. Il y a aussi un balayage de certains partis qui est assez effrayant. Donc je crois qu'il y a un discrédit politique qui s'accompagne d'un désarroi parce qu'on ne trouve pas d'issue à la situation dans laquelle on est. Et le contexte tunisien est très particulier parce que finalement la Tunisie, à la différence de ses voisins, pour être attractive, elle avait besoin d'offrir une stabilité à la fois institutionnelle et politique. Elle avait besoin d'offrir une sécurité, notamment pour faire venir des investisseurs et des touristes. Et elle avait besoin également d'apparaître comme un élève, finalement, mieux doté que les autres pour engager des réformes. Or, les critères qui faisaient l'attractivité de la Tunisie sous Ben Ali, avec toutes ses inconvénients, ses défauts et ses drames, eh bien aujourd'hui sont à réinventer dans une situation extrêmement chaotique où on voit bien que tant sur le plan sécuritaire qu'économique que politique, on est dans beaucoup d'incertitudes, et ça, je pense que c'est un des grands défis que les autorités à venir doivent vraiment lever très rapidement.
Les syndicats restent puissants dans le théâtre politico-social. Jusqu'à quel point est-ce que la lutte contre les inégalités sociales fait partie d'un combat typiquement syndical, ou est-ce que les syndicats, à leur tour, sont politisés au maximum?
Je crois, historiquement, il y a eu une très forte, disons, politisation des syndicats à partir des années 70. Puis on a vu l'affranchissement de certains syndicats pendant la Révolution. Mais je crois que les syndicats font leur travail, qui est l'encouragement de la dépense publique, de la protection de l'emploi, de la présence de l'État dans la sécurité des parcours des salariés. Ils ne font que leur travail que de défendre les salariés de la meilleure manière de leur point de vue. Mais le problème, il est qu'une grande partie de l'économie tunisienne aujourd'hui est une économie informelle, est une économie qui n'entre pas dans les activités, telles que les syndicats la définissent. C'est une activité de contrebande aux frontières, c'est une activité de recyclage de produits importés pas forcément déclarés entièrement. Enfin, on voit bien que se crée, comme dans les pays voisins, en Algérie et au Maroc, une activité dans laquelle les syndicats ont très peu d'activité. Là où les syndicats sont puissants, c'est dans la fonction publique, c'est dans un certain nombre d'entreprises, d'une certaine taille. Et là, en effet, il est de leur intérêt, comme ceux des partis politiques, de voir s'accroître, je dirais, le nombre d'emplois publics, la présence de l'État, parce que c'est autant de garanties pour eux de peser et de pouvoir agir si demain c'est nécessaire.
Il y a aussi une autre particularité, je crois, de la Tunisie, qui sont les disparités régionales. Mm-hmm. Parce qu'il y a une géographie très particulière, une géographie en longueur, avec des distances finalement très grandes dans un petit pays. Mais avec, là aussi, des inégalités fortes.
Tout à fait. Et puis on a des travaux, et collègue à Tunis pourra y revenir, qui montrent aussi clairement comment certaines régions frontalières de la Tunisie sont touchés par une pauvreté beaucoup plus grande, une précarité, mais aussi, de fait, sont amenés à voir certains de leurs jeunes rejoindre des groupes djihadistes en Libye ou ailleurs, parce que la situation est beaucoup plus, disons, beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée à vivre. Et donc, je pense que cette inégalité territoriale que ma collègue Béatrice Hibou a appelée finalement un développement asymétrique de l'État en Tunisie, en montrant clairement comment le littoral avait été très favorisé par rapport à d'autres régions, disons, de la Tunisie, pèse aujourd'hui et n'est pas pris en compte dans le débat. C'est ça qui est, alors même que c'est à la source, disons, de cette révolution qui provenait justement des marges économiques les plus précaires de la Tunisie. Eh bien, on a le sentiment que tout ça est un peu passé par perte et profit, et on revient sur la capitale, sa centralité, ses débats politiques, en oubliant sans doute toute cette part entière de la Tunisie qui ne se sent plus du tout concernée par les évolutions que nous observons aujourd'hui.
Est-ce que ce sont ces inégalités-là qui expliquent que les Tunisiens, par rapport à la population globale du pays, ont fourni, depuis l'origine de Daesh, le plus gros contingent ?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs, et parmi ces facteurs-là, il y a à la fois cette idéologie djihadiste qui a pris en Tunisie, parce que sous la période de Ben Ali, disons, on était plus dans une région contrôlée, sécurisée, avec énormément d'arrestations, avec une politique, disons, préventive et arbitraire qui laissait peu de prise, finalement, à la circulation de ce type d'idéologie. À l'inverse, l'Algérie, bien, était en pleine, disons, violence djihadiste dans les années 90. Le Maroc voyait certains de ses jeunes rejoindre les réseaux, en particulier européens et internationaux. Bien, avec la fin du régime de Ben Ali, on voit bien qu'il y a un autre défi extrêmement important pour les appareils de sécurité et de renseignement, c'est justement de dans un système démocratique, avec des moyens démocratiques, de pouvoir venir à bout à la fois de cette idéologie djihadiste, mais aussi de tous ces réseaux qui ont trouvé en Tunisie, en particulier dans les régions frontalières, eh bien, des relais pour voir quelques milliers de leurs, on parle de 5 000, certains 6 000, rejoindre Daesh et Al-Qaïda. On parle de 1 000 à 1 500 Tunisiens, en Libye. Voilà, c'est assez surprenant par rapport à l'image, par rapport à la perception que l'on a de la Tunisie en général.
Sophie Bessis, jusqu'à quel point est-ce que les partis politiques au pouvoir jusqu'à présent ont fait montre d'une sorte de tolérance, sinon d'encouragement vis-à-vis de ces poussées djihadistes au sein de la jeunesse tunisienne, à commencer bien sûr par Ennahda, enfin les islamistes, le parti islamiste.
Oui, effectivement, à l'époque de ce gouvernement que l'on appelait la Troïka, c'est-à-dire de fin de début 2012 à fin 2013, il est évident que la tendance dure du parti Ennahda avait le vent en poupe, et que il y a eu, les preuves sont là, absolument, les données sont là, des agences de recrutement, oui, dans lesquelles étaient impliqués des dirigeants de ce parti, que l'on peut nommer, des dirigeants de ce parti, et de très nombreuses mosquées salafistes. Moi, je me souviens de mosquées qui agitaient le drapeau noir djihadiste dans plusieurs endroits des banlieues populaires de Tunis, et qui étaient des centres de recrutement quasi officiels. Et il a fallu attendre, si l'on peut dire, des attentats absolument spectaculaires, et l'affaire essentiellement de l'attaque de l'ambassade des États-Unis en 2012, pour que le parti Ennahda commence à avoir besoin de respectabilité, commence à avoir besoin, parce que le terrorisme djihadiste était en expansion, de se démarquer de ses branches salafo-djihadistes, pourrait-on dire, hein. Et il a fallu un long cheminement de Narda pour ça, qui, qui a fini à partir de fin 2013 à peu près, à partir de juillet 2013. Hein, il ne faut pas oublier que le coup d'État militaire en Égypte a fait très peur au parti Ennahda, le coup d'État de juillet 2013 en Égypte.
Et contre, destituer les frères musulmans, un coup d'État encouragé par les Saoudiens.
Le coup d'État militaire encouragé par les Saoudiens et les Émiratis en juillet 2013 a fait très peur à Ennahda. Et à ce moment-là, la Tunisie était en proie à des manifestations monstres pour chasser le gouvernement de la Troïka. C'est ce qu'on avait appelé l'occupation du départ devant l'Assemblée nationale. Ce sont des manifestations qui ont duré plus d'un mois. Et Ennahda a rompu, disons, a mis un petit peu à l'écart ses dirigeants maximalistes, ses dirigeants très proches des milieux radicaux, et s'est donné une aura de respectabilité.
Donc, et qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'on voit que Ennahda est sorti en tête
Mais attention, il y a un parti dont on peut dire qu'il est à la droite de Ennahda, qui est le parti Karama, qui est le parti Dignité, qui a eu 22 députés, si mes souvenirs récents sont bons, et qui est un parti dirigé par un avocat qui a été l'avocat des salafistes et qui a des liens tout à fait étroits avec certaines personnalités radicales, hein, de l'islam radical, bien plus radical que Ennahda, 22 députés, ce n'est pas rien. Et donc, il y a encore en Tunisie des écoles, des mosquées qui échappent au contrôle de l'État, qui échappent au contrôle du gouvernement. Cela existe encore. Ce qu'il faut constater, que l'on n'a pas encore dit, qui me semble extrêmement important, la Tunisie qui vote, c'est-à-dire à peu près 50% du col électoral, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de personnes, est une Tunisie qui a voté islamo-populiste. Quand on regarde la composition de l'Assemblée, la gauche est laminée, il n'y en a pratiquement plus, c'est une déroute de la gauche. C'est également une défaite tout à fait spectaculaire de ce que l'on peut appeler avec quelques guillemets les modernistes, et c'est une déferlante populo-islamo-salafiste. Il faut quand même faire ce constat-là. Alors je dis bien la Tunisie qui vote, parce que ce serait injuste de dire la Tunisie.
Mais la Tunisie qui vote est évidemment celle qui va décider.
Et bien voilà.
Des rapports de force en cours d'élaboration.
C'est la raison pour laquelle la composition actuelle de l'Assemblée peut réserver quelques surprises pour l'avenir.
C'est donc le moment. Hamdam Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire. C'est le moment de voir comment la presse tunisienne en particulier étudie ou analyse la personnalité des deux candidats à la fonction présidentielle. Madame Bessis nous expliquait tout à l'heure que donc le président a moins de pouvoir que le Premier ministre. Néanmoins, cette élection va se jouer dimanche. Et donc, qui sont donc Kais Saied et, commençons par celui-là, Nabil Karoui, celui que l'on surnomme le Berlusconi tunisien.
Oui, tout à fait. C'est cet homme d'affaires de 56 ans, mania des médias tunisiens, qui a passé l'essentiel de la campagne en prison avant d'être libéré, vous le rappeliez, le mercredi 9. Alors, pourquoi était-il en prison? Il est poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, rappelle le site tunisien Capitalis. Au premier tour, il est arrivé second avec 15,8% des voix et il est surnommé le Berlusconi tunisien, vous le disiez, en raison à la fois de son empire médiatique et aussi de ses méthodes assez populistes. Alors pendant son séjour en prison, il est donc revenu à sa femme, Salwa Smaoui, de faire campagne, nous raconte le site Nawat. Le site tunisien estime qu'elle incarne l'image de la famille solidaire et de la femme loyale. Avant de se destiner à être peut-être une future première dame, elle est ingénieure en génie industriel et a été directrice de Microsoft Tunisie. Elle a en tout cas mobilisé tous les moyens possibles pour obtenir la libération de son mari. Ce dernier n'a pas manqué de la remercier à sa sortie de prison sur les réseaux sociaux dont il sait faire un très bon usage, comme on a pu le voir ces derniers mois où il se mettait notamment en scène en direct devant le palais de justice pour contester les plaintes pour corruption dont il fait l'objet. Alors pour Karoui, la campagne avait commencé depuis longtemps. Cela fait 2 ans et demi qu'il arpente la Tunisie pour se faire connaître avec son association caritative, dans des événements qui n'ont pas manqué d'être diffusés sur sa chaîne, Nesma TV. Le journal Capitaliste n'est pas tendre avec lui, écrivant que s'il venait à remporter le second tour le 13 octobre, ce serait un conte de fées pour lui, mais un insupportable cauchemar pour l'état de droit et surtout pour la moralité publique.
Mais le favori à ce stade demeure un vieux professeur de droit constitutionnel qui s'appelle Kaïs Saïd.
Oui, c'est celui qui a créé la surprise au premier tour, en tout cas c'est ce que dit le journal tunisien Business News, en arrivant en tête avec 18,4% des voix. Sans parti politique le soutenant officiellement et sans machine électorale, comment en est-il arrivé là? Business News s'est intéressé aux raisons du vote pour ce candidat ultra-conservateur. Âgé de 61 ans, c'est un universitaire juriste tunisien spécialiste en droit constitutionnel, ce qui lui a permis, dit le journal, d'attirer le vote des jeunes avec cette image un peu professionnelle. D'autres électeurs ont estimé qu'il était capable de protéger les institutions de l'État et il est surtout connu pour son opposition à la loi sur l'égalité homme-femme dans l'héritage qui avait été beaucoup discutée ces derniers mois, une loi défendue par l'ancien président. Il s'est aussi gagné la sympathie des partisans de l'aile dure du mouvement islamiste Ennahda qui ont été séduits par son refus par exemple de la dépénalisation de l'homosexualité ou encore de l'abolition de la peine de mort. Alors sa marque de fabrique, c'est aussi son discours en langage littéraire à l'intonation saccadée, ce qui lui a valu, lui, le surnom de Robocop. Pour Business News, le vainqueur de ce premier tour vient confronter la classe politique à une frange de la société qu'elle connaît peu et qui a voté pour un homme qui donne une impression de rigueur, de fermeté, de conservatisme, le tout enveloppé par la stature d'un enseignant universitaire. Cette même frange a voté d'une manière démocratique pour un candidat qui, dans son programme, envisage d'éliminer tout le système qui va le conduire au pouvoir, selon le journal. S'il a réussi à gagner la confiance des Tunisiens, c'est tout simplement, estime Business News, parce que la majorité d'entre eux en ont eu assez de la classe politique traditionnelle.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Retournons à Tunis, vous rejoindre Michael Ayari pour nous mieux comprendre, grâce à vous, l'environnement régional et international de la Tunisie aujourd'hui. On sait que jusqu'à présent, les alliances au pouvoir qui nous ont été expliquées jusqu'ici, donc surtout dominées par un parti des frères musulmans, donc soutenu par le Qatar et la Turquie, jusqu'à quel point est-ce que ces influences-là perdurent? Jusqu'à quel point est-ce qu'elles s'accompagnent ou non de financement, par exemple?
Écoutez, j'ai l'impression qu'en fait, d'après ce que j'ai entendu aussi, qu'il y a un petit, une contradiction quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 2011. Il y a 8 ans qui sont passés, et le discours de polarisation et la polarisation qu'on avait, qui était géopolitique, qui était idéologique, qui était dans un certain point de vue aussi social et régional en Tunisie, n'est plus la même. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et on ne peut plus raisonner maintenant, à mon avis, c'est ce qu'on a vu durant la campagne électorale des législatives et de la présidence, en termes d'axes. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes nouveaux qu'il reste à analyser et à expliquer et qu'on ne peut plus voir avec les grilles de lecture du passé.
Par exemple,
on a un parti par exemple qui s'appelle Narva, qu'on ne peut plus actuellement, à mon sens, assimiler à de l'islamisme ou encore moins du frère musulman. On a un candidat qui s'appelle Kaïs Saïd, qui est présenté comme un ultra-conservateur, mais qui dissocie les choses quand même, hein, qui dit que son côté conservatiste est une opinion personnelle, si vous voulez, il fait ça un peu par populisme, qu'on pourrait rapprocher beaucoup plus d'une forme de juridiste plébéien que d'un islamiste, et qui a intégré les critiques radicales de l'extrême-gauche avec les critiques radicales et parfois la position même géopolitique de nationaliste arabe. De ce point de vue-là, c'est une personne qui est beaucoup plus en phase avec ce qui se passe en 2019 en Algérie, avec ce qui peut se passer un peu plus loin, par exemple avec le Soudan, et qui, à mon sens, n'est pas du tout dans l'axe Turquie et Qatar. En plus, durant ces élections, on n'a pas senti véritablement de polarisation idéologique qui aurait été liée à une influence indirecte à travers l'imposition d'un agenda un peu médiatique par les axes, c'est-à-dire le côté émirati On peut effectivement soupçonner certains nostalgiques de l'ancien régime, etc., de les avoir côtoyés, mais sans plus. Et le côté Turquie-Qatar, on l'a pas non plus véritablement vu. Mais surtout, ce qu'il y a d'important et qui explique un peu ce sentiment qu'on a que la Tunisie était en fait en roue libre, était condamnée à une forme finalement de spontanéité, c'est l'absence de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, généralement, effectivement, est très discrète dans ses, je dirais, petites interventions indirectes, etc. Mais là, on a eu l'impression qu'elle était quasiment absente.
Ouais, c'est-à-dire que l'Algérie est préoccupée par elle-même. Ça, on le comprend.
Exactement.
Mais quand même, Michael, revenons quand même sur les partis politiques, parce que on a bien compris, ce n'est pas le président quel qu'il soit qui va véritablement imprimer les orientations futures de la Tunisie dans les mois et les années qui viennent. Ce sont bien les partis politiques, oui, et la coalition qui va émerger de ce parlement très émietté. Parmi, oui, ces partis politiques, vous dites-vous que les axes habituels ne sont plus les mêmes ou ne fonctionnent plus? Ou est-ce qu'il y a d'autres influences qui s'exercent? On peut penser à la Russie, par exemple.
Alors, c'est pas direct. Si vous voulez, la critique de la démocratie représentative qu'on retrouve chez Price Fade, effectivement, a des affinités électives avec la critique que diffuse la Russie hors de ses frontières. Ça, c'est une chose. Mais vous avez raison de préciser qu'il y a quand même une différence, pour nuancer mon discours, à travers donc ce que représentent les candidats à la présidence et à travers les partis et les formations politiques qui ont été élus. Et si vous voulez, au niveau du Parlement, ce qui s'est traduit, c'est-à-dire qu'il y a eu une division de l'axe dit séculariste, lié à une décomposition de Nidet Ounes, ce parti de 2014, mm-hmm, qui le parti du président de la République, lié aussi au décès du président de la République, lié au conflit qu'il y a eu entre les deux têtes de l'exécutif, qui étaient issus du même parti, donc Youssef Chehed et Brigitte Kaïdesevski, lié aussi à des règlements de compte aussi personnels entre les uns et les autres, lié à de la lutte contre la corruption et des choses de ce type. Et de l'autre côté, on a eu à l'intérieur du parti Narva, d'inspiration islamiste, des gros problèmes puisque les militants, les responsables régionaux se sont en quelque sorte rebellés contre leur direction en critiquant le rendement de ce consensus-là, en expliquant que rien n'est possible et que la meilleure manière finalement de se protéger, c'était finalement d'attaquer et de renouer avec quelque chose de plus fondamental, mais toujours en parole. C'est-à-dire d'aller et de gouverner, cette fois-ci, et de commencer à gouverner. Et ça, c'est quelque chose qui a eu des effets. C'est parce que le discours, une autre variable qui est importante, c'est le changement du calendrier électoral. Oui. C'est-à-dire que le décès de Brigitte Kaïdesevski a fait qu'il y a eu la présidence avant, donc le premier tour des élections présidentielles.
Oui, ça a bouleversé
les élections législatives. Voilà, ce qui a forcé le parti d'inspiration islamiste à présenter un candidat, parce que vous savez qu'il y a un effet d'entraînement, il faut éviter la dispersion des voix, etc. Et donc, qui a fait qu'ils ont dû en quelque sorte s'exposer. Et qu'on puisse leur reprocher ensuite, voilà, vous voulez prendre tout le pouvoir, vous voulez prendre et la présidence, vous avez déjà des municipalités, etc. Et on sait très bien comment fonctionnent les tractations entre les partis d'inspiration islamiste en Afrique du Nord et les systèmes, entre guillemets, c'est qu'il y a un certain nombre de lignes rouges à ne pas dépasser. Et ça, ils en ont très bien conscience.
Sophie
Maintenant, il faut distinguer ce qui est de la rhétorique, c'est-à-dire ce qui est du discours un peu tribunicien à des fins électorales pour pouvoir sécuriser une place au sein du Parlement, une place cardinale, et ce qui est la réalité d'un programme politique.
Mais néanmoins, Sophie Bessis, Michael, je vous interromps parce que Sophie Bessis a manifesté quelques désaccords.
Désaccords non, mais simplement...
D'autres nuances.
Voilà, quelques nuances, parce que nous savons, et c'est pas du tout caché, hein, c'est tout à fait officiel, les liens extrêmement étroits quand on tient le parti Ennahdha avec la KP turque. Où la KP turque, entre autres, organise des séances de formation pour les cadres de Narda, de longues séances, etc. Donc les relations sont extrêmement étroites. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, puisque On parlait tout à l'heure de déficit commercial. Les deux déficits commerciaux principaux de la Tunisie sont dus au commerce avec la Chine et avec la Turquie. Avec la Turquie, les importations turques sont extrêmement importantes. La position des entreprises turques est extrêmement importante. Et la Turquie a bénéficié à l'époque de la Troïka de certaines dispositions dérogatoires pour pouvoir, disons, s'implanter davantage en Tunisie. Simplement, je rappelle ce contexte-là, qui me paraît important parce que ces liens ne sont pas distendus. Maintenant, quand la base de Narda dit maintenant, il faut gouverner. Il faut quand même pas oublier que Narda gouverne depuis fin 2011. Narda était à la tête de ce qu'on appelait la Troïka avec deux partis supplétifs, voilà, et que Narda, depuis l'élection de Bejir Caïd-Sepsi à la présidence de la République et sous ses deux gouvernements, a participé à tous les gouvernements. Donc Narda n'a jamais été tenu à l'écart du pouvoir depuis la révolution.
Et c'est encore, il faut le rappeler, le parti qui est sorti
donc,
en tête.
Donc il faut quand même pas oublier que ils vont pas entrer au gouvernement.
Non, ils vont
participer
tenter
sous de nouvelles formes.
Voilà. Eddy Larbi, on n'a pas encore évoqué l'impact de la crise libyenne. Et notamment sur l'économie tunisienne, puisque c'était, je crois, un marché pour les exportations tunisiennes extrêmement important. Il y avait quelques 150 000 Tunisiens qui travaillaient en Libye. Et maintenant, c'est l'effet inverse. Il y a des réfugiés libyens en Tunisie qui pèsent aussi sur le climat local. Donc jusqu'à quel point est-ce que le chaos en Libye, avec beaucoup de djihadistes tunisiens qui d'ailleurs passent la frontière très régulièrement.
Très bien.
Comment est-ce que cela pèse sur la situation ? Répondez-moi là-dessus, s'il vous plaît.
Je vous réponds très vite, parce que moi, je me rappelle, en 2011, tout le monde disait, de toute façon, en un an, on va faire la transition, et puis on a un marché énorme au niveau de la Libye, et la Libye a voulu ouvrir, évidemment, et donc, à ce moment-là, on peut envoyer quelques centaines de milliers de travailleurs, de cadres, et puis les activités, je dirais, de commerce vont reprendre de plus belle.
Bon, tout ça, c'est fini.
Non seulement c'est fini, mais moi, à l'époque, quand on a évalué, on a dit ça commence à bouger du côté de la Libye. Surtout, ne comptez pas sur la Libye. Bien au contraire, ça va être un coût économique plutôt que vraiment une opportunité économique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment un coût économique et un coût social aussi. Parce que, vous rappelez, en 2012, tout ce qu'il a fallu pour la Tunisie pour reprendre un petit peu les Libyens, pour essayer aussi...
Mais donc, aujourd'hui, en 2019... Donc jusqu'à quel point est-ce que on sait qu'il y a un programme du Fonds monétaire international pour soutenir la Tunisie, mais ce programme s'arrête, je crois, l'an prochain.
Oui.
Donc qu'est-ce que cela veut dire à moyen terme ?
Il aura surtout, le programme du FMI, comme vous le savez, c'est surtout un peu les équilibres des finances publiques, budgétaires et un peu la politique monétaire, voilà, pour essayer de maîtriser l'inflation. À mon avis, si effectivement il n'y a pas un programme qui va suivre, et en particulier un engagement réel du côté du gouvernement pour faire les réformes, eh bien il n'y aura pas un programme succédant, et donc il y aura des problèmes de financement public, mais aussi du financement de la balance des paiements. Parce qu'en général, c'est du devise qui rentre, qui aide plus la balance des paiements que les finances.
Et ce sont les marchés européens les plus importants.
Absolument, absolument.
Donc quel est le rôle de la France dans tout cela, sur le plan économique et commercial.
La balance commerciale avec la France a été toujours positive, donc c'est un très bon marché. En plus, il y a des investisseurs français qui sont là et qui continuent. Donc, à mon avis, le rôle de la France peut aider éventuellement à mobiliser les organismes internationaux, mais aussi, ils ont aussi leur propre agence de coopération bilatérale avec la France, ça marche très bien. Le problème, c'est est-ce qu'on aura un vrai programme économique et un gouvernement qui est capable de délivrer ? Parce que je pense
Et d'encourager les investissements
absolument.
Privés.
Absolument. Ça veut dire encourager l'investissement privé, ça veut dire stabilité politique, ça veut dire stabilité sociale, ça veut dire un programme qui est clair et net, ça veut dire aussi une administration qui fonctionne, ça veut dire toutes les réformes nécessaires, surtout les réformes structurelles. Et ça, ça demande un gouvernement. C'est pas ça comme ce que je voulais dire, c'est que peu importe Narda ou n'importe qui, la situation économique est telle que n'importe qui sera demain au gouvernement, y compris ces populistes, ne dureront pas 3 mois s'ils ne peuvent pas délivrer. Parce qu'il ne faut pas croire que, quand je regarde les chiffres, c'est vrai ce que disait Sophie, la Tunisie plus islamo-populiste, mais en réalité,
la majorité, elle reste moderniste. Parce que les islamistes populaux sont à 76 députés. Si je prends la gauche et les modernistes, même s'ils sont... Mais parce qu'ils sont très imités. Mais quand je calcule, ils sont à 92.
Mais reste... là et le vous parlez politique. Comme si on parlait de politique française, je dirais, sous la 4e République.
C'est la 4e République.
Mais si nous sortons de ces jeux politiques pour en revenir aux priorités qui sont celles des Tunisiens... ce que vous dites, c'est que ce gouvernement, quel qu'il soit, ce président, quel qu'il soit, ils devront répondre d'abord aux attentes de la population.
Ils ont des problèmes énormes. J'ai regardé le problème. Nada. Il n'y a absolument pas de réforme. Il y a pratiquement, on va faire.
Il n'y a pas de programme précis.
Les populistes, Sophie le sait aussi, il n'y a pas de programme du tout. Au contraire, c'est pratiquement, on va fermer l'économie tunisienne, on va demander qu'on nous redonne nos richesses. Il n'y a pas de programme nulle part. Et donc, mais ceux qui n'ont pas compris, et la classe politique, y compris celle qui est moderniste, si on ne délivre pas dans les 3-4 prochains mois sur le plan économique et social, ça ne marchera pas du tout.
Mais c'est impossible.
Louis Martinez, je retourne vers vous pour évoquer la situation sécuritaire. On a vu que le tourisme, qui est une ressource primordiale pour la Tunisie, a été frappé à plusieurs reprises par des attentats. Donc les ressources liées au tourisme ont beaucoup, beaucoup de mal à reprendre. Jusqu'à quel point est-ce que le terrorisme intérieur, le djihad de l'intérieur, reste selon vous une menace ?
Il me semble que la menace s'est quand même considérablement, affaiblie ces dernières années, tout simplement parce que la Tunisie a su réagir, à la fois par des coopérations régionales et internationales. On a rappelé l'absence de l'Algérie de façon visible, mais dans les faits, l'Algérie a un partenariat militaire et sécuritaire avec la Tunisie qui est de première main, en fait, et qui est considéré à Alger comme excellent, et dont on retrouve un écho en Tunisie également. Il y a également une coopération avec les États-Unis, notamment pour pouvoir éliminer des Tunisiens en Libye qui auraient des intentions de provoquer des attentats terroristes. On a une coopération avec la France, l'Allemagne également. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience très forte des autorités tunisiennes ces dernières années, de cette menace-là. D'autant plus que ça a été très bien dit, le PIB s'est affaibli, il a chuté, l'inflation a augmenté, le pouvoir d'achat s'est considérablement, rétréci ces dernières années, ce qui veut dire que du point de vue social et économique, les autorités ont cherché au moins à être en capacité à pouvoir répondre à la menace sécuritaire. Alors, je crois que là, du point de vue intérieur, ça semble, relativement, au moins en apparence, bien construit. Il reste que tout l'environnement régional de la Tunisie est problématique et la Tunisie est exposée, comme les autres pays, finalement, à des tentatives d'attentats sur son territoire sans qu'elle puisse garantir complètement sa sécurité nationale. Mais moi, je voulais juste aussi revenir sur un point très important, c'est que il faut vraiment insister sur cette dimension socio-économique. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un jeu politique et je pense que si on ne maîtrise pas l'enjeu de la dégradation des conditions socio-économiques en Tunisie aujourd'hui et à l'avenir, il est clair qu'on pourra s'interroger sur la pérennité des institutions politiques démocratiques tunisiennes.
Louis, quel est le rôle de l'armée ? On sait que l'armée est très aimée en Tunisie, et notamment pour son rôle modéré, finalement, au moment de la révolution de 2011. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Il me semble qu'elle a dès notamment 2013-2014, ensuite développé, augmenté ses moyens financiers, développé une coopération régionale et internationale. Elle est restée dans sa neutralité politique, mais en même temps, elle est très engagée aujourd'hui sur le plan, opérationnel pour essayer de faire de la Tunisie au moins cet espace de sécurité qu'elle a longtemps été et qu'il faut restaurer. Vous l'avez très bien dit, la Tunisie génère par le tourisme des revenus et des activités. Si la Tunisie n'offre plus cette image de sécurité, il est évident qu'elle va perdre considérablement en termes de recettes les revenus issus du tourisme, et on sait qu'ils impactent l'artisanat local, les activités régionales. Donc c'est un élément très important. La lutte contre le terrorisme est une garantie de la protection du secteur touristique. Un pays comme l'Algérie ou voire la Libye peut très bien vivre avec, malheureusement, des activités terroristes sur son territoire. Ça n'impacte pas ses exportations de gaz et de pétrole. la Tunisie comme le Maroc ont un impératif d'offrir une image de sécurité maximale à ces voyageurs, finalement.
Sophie Bessis, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Et ce qu'il en ressort finalement, c'est que même si les jeux politiques sont toujours intéressants à analyser, et ce n'est qu'un début, puisqu'encore une fois, les tractations pour essayer de composer un gouvernement ne font que commencer, mais la réponse, manifestement, ne peut pas être que politique.
C'est l'évidence. Mais la raison pour laquelle je suis assez pessimiste en matière économique et sociale, c'est que ce n'est pas seulement dû au fait qu'aucun parti politique, aucune formation n'a de programme, c'est que l'habitus idéologique des élites tunisiennes, de la classe politique tunisienne, est un habitus ultra-libéral. Tous des islamistes au gouvernement chiite, etc. C'est un ultra-libéralisme et les choix économiques de la Tunisie depuis les années 70 ont accentué la littoralisation de l'économie tunisienne et l'abandon...
La littoralisation, c'est-à-dire que
tout est sur les côtes.
Sur les côtes.
Voilà. Et l'abandon des régions intérieures. Et les injonctions des bailleurs de fonds aujourd'hui ne vont pas du tout à l'encontre de ces choix, bien au contraire, et que donc s'il n'y a pas un changement de paradigme profond dans les choix que doit faire la Tunisie pour les 10, 20, 25 prochaines années en matière économique et sociale, la question sociale restera toujours une question parfaitement explosif.
Eh bien, merci à tous de nous avoir ainsi éclairés sur les enjeux de ce pays qui est cher à beaucoup d'entre nous. Merci à vous, Sophie Bessis, historienne. Vous avez publié au début de cette année chez Taillandier une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. Eddie Larbi, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes un ancien directeur de la Banque mondiale. Luis Martinez, vous venez, vous, de publier aux presses de Sciences Po, Afrique du Nord, l'Afrique du Nord après les révoltes arabes. Merci aussi, bien sûr, à Michael Béchir Ayari, analyste pour Crisis Group, dont les rapports sont toujours très précieux, donc sur le site de Crisis Group. Merci à Hamda Mostafavi de Courrier International, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Laurie Vachon. Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Très bon week-end.